voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
L'envoi de 3000 casques bleus de plus en Centrafrique, comme demandé par le chef de la MINUSCA, la force de l'ONU sur place, permettra-t-elle de ramener la paix dans ce pays? C'est notre débat du jour, mais d'abord notre invité décryptage qui est en direct de New York.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et il s'agit de Mokhtar Gawad. Bonjour Mokhtar Gawad.
Bonjour Liliane.
Ancien rédacteur en chef de France 24 et TV5, et vous animez le site Vue sur l'Amérique. Vous êtes donc en ligne de New York. Alors, il y a une semaine, le démocrate Joe Biden prenait officiellement les rênes des États-Unis et depuis, il a pris plusieurs mesures de rupture. Les premières mesures de rupture du nouveau président sont, entre autres, la nomination de l'Américain d'origine guinéenne Mahmoud Ba à la tête de Millennium Challenge Corporation, ce qui est donc une rupture, Mokhtar. Et cela est salué sur le continent. Qu'est-ce que les Afro-Américains eux-mêmes pensent de ces choix faits par le nouveau président Joe Biden?
Alors, un consensus déjà se dégage, disant que cette nouvelle administration, cette nouvelle équipe investie, vous l'avez dit, il y a moins d'une semaine, est la plus diverse, la plus métissée de l'histoire.
On dit représentative de la société américaine.
Absolument, encore plus que celle du président Barack Obama qui avait, vous vous souvenez, eu deux mandats. Donc c'est un geste qui a été salué et le New York Times et le Washington Post aussi disaient hier que les minorités américaines sont au cœur du pouvoir aujourd'hui aux États-Unis. Donc effectivement, le nouveau secrétaire d'État à la Défense, le ministre de la Défense, vous avez la vice-présidente qui est aussi africaine-américaine ou asiatique aussi d'origine. Donc vous avez une équipe extrêmement représentative de ce qu'est la diversité aujourd'hui aux États-Unis.
Mais est-ce qu'à force de vouloir très vite créer la rupture avec son prédécesseur, Joe Biden ne risque-t-il pas de mécontenter les Américains, qu'on va dire les Américains de souche, et peut-être même les Afro-Américains d'origine américaine?
Je ne pense pas. Vous avez aujourd'hui deux Amériques qui se succèdent au pouvoir. Une extrêmement uniforme, comme l'était l'équipe de Donald Trump, qui était entourée essentiellement donc d'hommes blancs, je dis bien d'hommes blancs, et vous avez une équipe aujourd'hui qui est en rupture avec ce qu'on voyait, ce qu'on a vu pendant 4 ans, donc une équipe extrêmement diversifiée, qui montre tout simplement où va la démographie américaine. Je vous rappelle tout simplement que les minorités avancent rapidement, alors que la majorité blanche, qui était à peu près de 70% de la population américaine, régresse. Mais Biden a été élu, et il le sait, grâce à la mobilisation de toutes les minorités, et il les récompense aujourd'hui en les mettant au plus près de lui dans toutes les sphères du pouvoir aujourd'hui aux États-Unis. Et ça risque effectivement de froisser un certain nombre d'Américains, mais la majeure partie des Américains savent que c'est un chemin inévitable pour le pays qu'il faut absolument saluer aujourd'hui.
Et certains ont également, se sont également réjouis de la décision de Joe Biden, qui est revenu sur le décret pris par son prédécesseur qui interdisait l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de certains pays musulmans, dans nombre de pays africains. Et il a également, Mokhtar Gawad, ordonné aux différentes agences fédérales d'évaluer les inégalités dans leur politique et dans leur programme pour tenter de lutter contre le racisme aux États-Unis. Comment est-ce que les organisations afro-américaines qui défendent les droits des afros reçoivent-elles ou accueillent-elles cette décision, notamment de lutte contre le racisme au niveau fédéral?
Vous avez effectivement un certain nombre de mesures qui montrent l'attention que porte le nouveau président aux minorités, mais aussi aux minorités LGBT. Vous avez vu le décret pris hier pour le retour des transgenre, comme on dit, au sein de l'armée. Donc, il va au-delà des minorités ethniques ou raciales, si je puis dire, non pas en termes biologiques, mais en termes ethniques ici aux États-Unis. Donc, il sait, Biden sait exactement qui l'a amené au pouvoir et il est en train de satisfaire ceux qui ont voté pour lui.
Il tente de retourner l'ascenseur, de rendre l'ascenseur à tout son électorat.
Absolument, absolument. Mais au-delà, Liliane, si je puis dire, vous avez en moins d'une semaine, il a été donc investi le 20 janvier, moins d'une semaine, il a déjà signé des dizaines de décrets présidentiels avec des décisions extrêmement importantes.
Merci.
Qui sont, par exemple, le retour à l'accord de Paris sur le climat ou le retour...
à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
Exactement. Donc, il y a effectivement des décisions cosmétiques, même si elles sont importantes, mais n'oublions pas le fond sur ce qu'il a fait avec aussi l'arrêt immédiat de la construction
Merci.
Du fameux mur à la frontière
avec le Mexique.
Sud des États-Unis avec le Mexique.
Merci beaucoup, Moctagawa. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, d'évoquer cette procédure d'impeachment contre Donald Trump. L'acte d'accusation contre lui a été transmis au Sénat, qui devra donc le convoquer pour un procès dont l'ouverture est prévue le 9 février prochain.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir de la demande de la MINUSCA d'envoi de 3000 casques bleus supplémentaires en Centrafrique pour renforcer la force onusienne et permettre donc de ramener la paix dans ce pays. 4 invités sont en ligne. Mahamat Kamoun, ancien Premier ministre et président en exercice de la COD 2020, c'est la coalition de l'opposition. Monsieur le Premier ministre, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Également avec nous dans cette émission, Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Monsieur Montero, bonsoir.
Bonsoir.
Albert Yaloké est aussi avec nous de Bangui, porte-parole de la présidence centrafricaine. Bonsoir, monsieur Yaloké.
Oui, bonsoir, madame.
Et la voix de la population centrafricaine, on peut le dire, est ici portée par Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile en Centrafrique. Monsieur Lakosso, bonsoir. Allô, monsieur Lakosso? Il ne nous entend pas, semble-t-il, pour le moment. On va commencer avec vous, monsieur Montero. Devant le Conseil de sécurité, Mankorn Ndiaye, qui est le chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, a prévenu en disant que la République centrafricaine était confrontée à un grave risque de recul en matière de sécurité. Pourriez-vous peut-être commencer par nous dire précisément ce que cela signifie?
Ben, cela signifie que depuis la mi-décembre 2020, quelques groupes armés, parmi les plus importants, l'UPC, la MPC, le 3R, les Anti-Balaka et quelques factions du FPRC, alliées à l'ancien président François Bozizé, ont décidé d'abord de perturber un processus électoral qu'ils n'ont pas réussi, puisque même dans les zones où il y a eu des violences, beaucoup de Centrafricains ont défié les hommes en armes pour pouvoir voter. Ils veulent désormais installer le chaos dans le pays. Et c'est cette violence, c'est cette insécurité que le représentant spécial du secrétaire général a voulu dénoncer lors de son intervention devant le Conseil
de sécurité. Je voulais juste savoir, pouvez-vous traduire par un des termes plus clairs ou plus concrets ce qu'on appelle, ce que vous appelez le grave risque de recul en matière de sécurité? C'est-à-dire qu'on va aller à une situation pire qu'elle ne l'est en ce moment, et peut-on vivre des situations encore plus graves que celles à laquelle on assiste aujourd'hui?
Écoutez, d'abord, il y a une alliance contre nature, une alliance anti-Balaka, ex-Seleka, un ancien président qui se sont associés avec un agenda inacceptable, un agenda inadmissible. Deux, une multiplication d'attaques, des attaques simultanées, programmées, coordonnées sur plusieurs fronts, d'abord dans l'Ouest, ensuite dans une partie du centre, vers Grimari, Bambari. Ensuite, dans le sud, vers Bangassou, c'est cette multiplication de violences, c'est cette multitude d'acteurs qui font que la situation est critique et compliquée et face à laquelle les casques bleus et les forces de défense et de sécurité centrafricaines essaient d'y répondre.
Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à M. Kamoun. Vous êtes là, M. Kamoun ? Allô, M. Kamoun ? Non, il ne nous entend pas. Bah, Monsieur Kamoun, alors, oui, je voudrais qu'on dise un mot rapide sur cette association supposée au réel entre la CPC, la coalition rebelle, avec l'ancien président François Bozizé, qui lui avait appelé en décembre à voter pour un de vos membres, en l'occurrence Anissé Georges Dologuélé. Aujourd'hui, quand vous entendez ce concert d'accusations et vous assistez à cette dégradation de la situation sécuritaire, vous vous dites il est peut-être temps de prendre clairement vos distances avec l'ancien président accusé d'être celui qui manœuvre et qui est à l'origine de cette instabilité actuelle.
Ok, madame, tout d'abord, je voudrais vous rappeler les objectifs, très brièvement, les objectifs de la Côte 2020 qui ont été donc déclinés dans notre charte qui a été signée en février 2020. Il s'agissait pour nous de lutter pour le retour immédiat de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale au sein de la communauté centrafricaine et sur l'ensemble du territoire national, afin de mettre un terme au drame du peuple. S'opposer à toutes ses forces, la Côte 2020, et par tous les moyens légaux dont elle dispose, à toute volonté, action ou manœuvre délibérée tendant à confisquer le pouvoir de l'État, et ensuite veiller à la tenue d'élections libres, transparentes, démocratiques et inclusives, reflétant plutôt la réelle volonté du peuple centrafricain. Alors, moi, je ne peux pas vous répondre à la place du président François Bozizé. Moi, je suis membre et président en exercice de la Côte de 2020. Donc, cette question, vous ferez mieux de lui poser personnellement. Mais ce que je sais, le président Bozizé était, et son parti, le KNK, reste encore membre de la Côte de 2020. Il s'agit d'une coalition des partis légalement reconnus sur le territoire centrafricain.
Et donc il n'y a pas de raison de l'en exclure, si j'ai bien compris, malgré les accusations que le Conseil de sécurité, la MINUSCA et les autorités centrafricaines portent contre lui.
Oui, mais son parti est encore dans la légalité. Nous ne travaillons pas avec le président Bozizé. Mais par contre, je voudrais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que venait de dire mon ami, le porte-parole de la MINUSCA,
Monsieur Montero.
Quand il disait que malgré la présence des groupes armés, le peuple est parti voter, même dans les zones qui sont sous contrôle de rebelles. Moi, je dirais non. Non, en ce sens que le peuple centrafricain n'a pas pu exercer, ou du moins dans sa grande majorité, n'a pas pu exercer son droit.
D'accord. Et à ce sujet, s'il vous plaît, c'est pas le sujet, monsieur Kamoun. Nous parlons de. C'était juste une parenthèse quand j'évitais le cas Bozizé, mais nous concentrons aujourd'hui sur quel peut être l'incidence ou l'impact de ce déploiement éventuel, ce déploiement supplémentaire éventuel sur la sécurité. Parce que en ce qui concerne les élections, la Cour constitutionnelle s'est prononcée et on a effectivement admis que le taux de participation était très faible. Alors, je voudrais qu'on écoute, monsieur. Oui. Sur ce point, donc, il n'y a pas de débat. Monsieur Albert Yaloké, revenons-en très rapidement à cette demande lancée par monsieur Mankeur Ndiaye. Est-ce que cela peut changer la donne aujourd'hui sur le terrain? Parce que c'est ça la priorité, l'inquiétude des Centrafricains, c'est la reprise de ces conflits. Quand on demande 3000 hommes supplémentaires, c'est pour quoi faire et qu'est-ce que cela peut changer?
Vous savez très bien que, madame, l'objectif de la Côte 2020, c'était d'empêcher que les élections aient lieu en République centrafricaine. Vous voyez une coalition d'opposition qui refuse d'aller aux élections. Parce que, tout simplement, les sondages donnaient des résultats minables.
Monsieur Yaloké, pardon, je vous interromps. On ne parle plus d'élections, s'il vous plaît. Concentrons-nous, on n'a pas beaucoup de temps de revenir dessus.
Permettez-moi de répondre à votre question. Vous savez très bien que Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'armée centrafricaine était tombée très bas. Elle était déstructurée complètement et il se trouve que l'embargo qui pèse sur notre armée ne nous permet pas vraiment de défendre nous-mêmes notre population. Voilà pourquoi la MINUSCA est là. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la MINUSCA se trouve devant quelque chose de très, très énorme. Hein? C'est les forces internationales qui assurent la défense de notre pays en soutien aux forces de défense et de sécurité. On se rend compte que avec cet embargo, les moyens ne sont pas suffisants au niveau des forces de défense et de sécurité. Donc, il faut renforcer. C'est pour ça que...
Mais la MINUSCA avait déjà reçu pour le mois de décembre 300 casques bleus, le renfort de 300 casques bleus supplémentaires pour sécuriser les élections. Et même avant ces renforts, la situation sécuritaire était déjà problématique.
Oui, je peux vous dire que ce que disait M. Montero, Vladimir Montero tout à l'heure, c'est que vraiment, c'est la Côte 2020 et la CPC qui est l'aile armée de cette coalition d'opposants, vraiment, c'était Boudinze qui est au-dessus de la Côte 2020. C'est lui le président de la Côte 2020 en exercice. Et il a décidé de lever une rébellion avec la CPC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve M. Kamoun à la tête de la Côte 2020. C'est parce que Boudinze est rentré en rébellion. Et leur combat, c'est d'abattre la MINUSCA. Or, tout le monde sait très bien que la MINUSCA est cette force internationale qui vient en soutien aux forces de défense et de sécurité centrafricaines pour défendre notre territoire.
Merci, M. Yaloké. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais rassurez-vous, je reviendrai là-dessus puisque c'est le débat. M. Gervais Lakosso, que pensez-vous de l'appel du représentant des Nations Unies, M. Lakosso? On me fait signe qu'il n'est toujours pas là. Alors, je vais retourner à vous, M. Montero. La société civile, malheureusement, on n'arrive pas à voir M. Lakosso, estime que l'appel lancé par le représentant des Nations Unies vise en fait à masquer ou à camoufler votre échec, que c'est un prétexte que vous voulez utiliser pour justifier le bilan maigre, voire nul, de la MINUSCA en près de 8 ans de présence en Centrafrique.
Écoutez, je ne vais pas revenir sur les campagnes de dénigrement ou de désinformation. Ce n'est pas l'objet de ce débat. Le 21 janvier, lorsque le représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSCA, Mankar Ndiaye, se présente devant le Conseil de sécurité, il explique quelque chose que tout le monde, tous ceux qui sont ici en train de suivre l'actualité, ont compris. C'est que ces groupes armés coalisés et alliés à l'ancien président Boudinze sont décidés à poursuivre leurs attaques. Ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient cesser les attaques malgré la tentative d'asphyxie et le drame humanitaire que ces attaques pourraient créer. Donc, face à cela, le représentant a dit au Conseil de sécurité ce qui suit. Nous sommes dans un pays avec 11 000 hommes, mais sur un territoire extrêmement vaste, avec peu de voies de communication. Deux, nous, la MINUSCA, nous ne disposons pas de beaucoup de forces de réaction rapide. Nous avons au sein de la MINUSCA deux forces de réaction rapide.
Je suis désolé de vous interrompre, Monsieur Montero. On va vous redonner la parole pour terminer vos propos juste après cette courte pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
3000 casques bleus supplémentaires pour la MINUSCA en Centrafrique pourraient-ils permettre de renforcer la sécurité dans ce pays? Nous en débattons ce soir avec Albert Yaloké, porte-parole de la présidence centrafricaine. Mahamad Kamoun, ancien Premier ministre et président en exercice de la Côte 2020, la coalition de l'opposition, et Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique. Nous allons vous redonner la parole, M. Montero, pour que vous puissiez terminer vos propos. Vous étiez en train d'expliquer d'expliquer les insuffisances actuelles qui justifient ou qui expliqueraient l'échec de la MINUSCA à assurer la sécurité en Centrafrique.
Je ne dirais pas échec de la MINUSCA à assurer la sécurité, je dirais tout simplement que en allant au Conseil de sécurité, le représentant du secrétaire général a dit ce qui suit. Écoutez, jusqu'à présent, avec nos 11 000 et quelques militaires et 2 000 policiers, nous sommes parvenus à faire face aux différentes menaces, mais aujourd'hui la situation est différente. Il y a une multiplication de fronts avec ces groupes armés alliés à l'ancien président Bozizé. Alors, on demande plus de moyens. Parce que en ce moment, la MINUSCA n'a que deux forces de réaction rapides. Ce sont les Portugais et les Bangladais qui sont envoyés sur différents fronts, en plus des autres casques bleus qui sont sur place dans différents endroits. La MINUSCA a des capacités limitées, notamment en termes d'hélicoptères d'attaque, et le territoire est extrêmement vaste. Voilà la raison pour laquelle il a demandé 3000 de plus, mais c'est le Conseil de sécurité qui décidera oui ou non.
Et pour le moment, quelle est justement la réponse du Conseil de sécurité?
Ben pour le moment, nous attendons. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant les élections, le Conseil de sécurité avait déjà accepté d'autoriser l'envoi de 300 casques bleus supplémentaires qui sont venus de la mission du Sud-Soudan. Et
le représentant du secrétaire général demandait justement que leur mission soit prolongée. Ça a été obtenu, je suppose.
Effectivement. Nous attendons toujours la réponse du Conseil de sécurité par rapport à ces demandes, parce que la menace sécuritaire, elle existe. Ces éléments armés veulent continuer sur leur projet inacceptable.
Je voudrais, avant de passer la parole à M. Kamoun, juste que vous répondiez à cette question. Vous-même, vous venez de c'est vous qui l'avez dit, que vous ne répondez pas au dénigrement de la MINUSCA. La société civile, un membre de la société civile a déclaré que la MINUSCA est une boîte à mensonges. Cela, c'était suite à l'occupation de Bangassoua, qui était confirmée à la fois par les autorités locales, les autorités religieuses sur place, mais la MINUSCA continuait de dire que nous avons le contrôle de la MINUSCA de Bangassoua. Est-ce que ce type d'incident ne peut justement pas contribuer à décrédibiliser votre mission? Allô, M. Montero?
Écoutez, comme je l'ai dit, en ce moment, la MINUSCA est concentrée sur son mandat de protection des populations.
Je comprends parfaitement, mais c'était pour que vous répondiez à ce que vous-même vous avez dit, que vous sembliez dire qu'on dénigre la MINUSCA sans raison. Je vous donnais un exemple d'un incident qui s'est passé récemment.
Nous répondons par les faits. Ce qui se passe en ce moment, si on regarde sur le terrain, des casques bleus qui sont à Bangassou et qui ont pu libérer la ville, des casques bleus qui sont aux côtés des FACA dans la partie ouest du pays. C'est le plus important en ce moment pour nous.
Merci beaucoup. Alors, M. Kamoun, quelle est votre appréciation de l'action de la MINUSCA après 8 ans de présence? M. Montero venait de dire que, oui, il y a des équipements qui manquent, il y a des insuffisances qui font que la MINUSCA ne peut pas se déployer comme elle le souhaite. Mais il reste que 2/3 du territoire sont toujours occupés par des groupes armés. Parce que M. Montero disait qu'ils essaient de faire face aux situations actuelles.
Okay. Je vais vous répondre. Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire aux représentants de la présidence de la République, tant que aussi longtemps qu'ils continueront de porter un doigt accusateur sur l'opposition démocratique, ils perdront le combat. Nous ne sommes pas, la Côte d'Ivoire n'est pas la CPC et la CPC n'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a un sérieux problème sur le terrain. Il s'agit de la vie des Centrafricains, il s'agit de la vie de la nation.
Peut-être et cela donc, illustre le manque de confiance qu'il y a entre les acteurs de la classe politique.
Mais ils ne peuvent pas, l'opposition n'a pas d'armes, l'opposition a les mains vides, l'opposition fait de l'opposition. Fait-il imaginer un système démocratique sans l'opposition politique? À moins de nous ramener vraiment au Moyen-Âge, ou à des systèmes autocratiques ou bien dictatoriales. Voilà, pour répondre à votre question, j'aimerais dire que avant la MINUSCA, il y a eu quand même dans ce pays plusieurs forces.
la MECOPAX 1, 2, 3. Il y a eu la MISCA, la Mission internationale de surveillance de Centrafrique, composée des forces de la sous-région,
de la CEAC,
la communauté économique
des États de l'Afrique centrale,
qui a passé le flambeau à la MINUSCA, parce qu'on avait pensé à l'époque que, avec l'arrivée de la MINUSCA, il y aurait plus d'hommes, plus de moyens pour pouvoir restaurer la paix et la sécurité dans notre pays. Et je vous rappelle aussi que la MINUSCA avait accompli sa mission à la satisfaction générale de la population avec moins d'hommes que la MINUSCA. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, quand le président Faustin Touadéra arrivait au pouvoir, pendant les moments difficiles, il y avait à peine 5 groupes armés qui contrôlaient quelques 3-4 préfectures du pays. Nous avons été aux élections dont le résultat a été salué, accepté par tous, qui a consacré l'élection du président Touadéra.
En 2016.
Et en si peu de temps. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que 5 ans d'exercice du pouvoir, le nombre de groupes armés est passé à une quinzaine. Et leur zone d'influence, de contrôle, est passée à pratiquement plus de 2/3 du pays. Moi, je suis surpris d'entendre mon ami Montero quand il dit qu'il faut plus de moyens. C'est maintenant, au moment où on a eu une élection chaotique, qu'ils vont se réveiller pour comprendre qu'il y a des menaces dans le pays.
Donc pour vous aussi, c'est peut-être un argument pour justifier son incapacité, selon la société civile, à assurer la sécurité.
Il faut dire les choses telles quelles. La MINUSCA n'a pas été à la hauteur de sa mission.
Comment expliquez-vous cela, Monsieur Kamoul? Quelle est votre réponse? Comment expliquer le fait qu'avec la MINUSCA, qui a plus de moyens ou qui semble avoir plus de moyens, même si M. Montero dit le contraire,
le gouvernement,
elle semble efficace.
Il refuse de voir les réalités en face. Nous avons commencé depuis plusieurs mois à sonner sur la sonnette d'alarme, à tirer sur la sonnette d'alarme, pour dire que, attention, nous voulons des élections libres, transparente, démocratique et apaisée, inclusive dans notre pays. Mais la situation sécuritaire qui prévalait déjà il y a quelques mois ne permettait pas de le faire.
D'accord,
nous avons été victimes.
Oui, monsieur Kamoul, en quelques mots, s'il vous plaît, dites-nous.
L'insécurité qui se vit pendant la période de campagne, avant la période de campagne et pendant la période de campagne, on a dû suspendre, tenant compte de l'insécurité grandissante.
Comment expliquez-vous donc la multiplication de ces groupes armés et l'incapacité, vous le dites de manière claire, de la MINUSCA à assurer la sécurité alors qu'elle a plus de moyens?
C'est une question qui doit être posée au gouvernement de Touadéra et à la MINUSCA. Souvenez-vous, il y a de cela plus d'un an. Maintenant, ça va faire 2 ans. Un accord de paix et de réconciliation avait été signé quand même sous l'égide des garants et des facilitateurs à Khartoum, accord que le président Touadéra a brandi comme étant la panacée du problème sécuritaire. Il a même accusé l'opposition d'être de mauvaise foi parce que les gens n'ont pas pris part à cette messe de Khartoum.
Merci.
Pendant 2 ans, ils ont opéré ensemble. Qui est l'allié? C'est des amis, dire qu'ils sont devenus aujourd'hui des ennemis du pouvoir et de la MINUSCA. C'est à eux de leur poser la question.
Merci beaucoup. Alors, monsieur Yaloké, je vous laisse le temps de répondre en 2 minutes aux accusations formulées par monsieur Kamoul, qui semble également dire que le gouvernement centrafricain, le président Touadéra, serait responsable de l'augmentation du nombre de groupes armés.
Justement, ce sont eux les manipulateurs justement de ces groupes armés. Comment voulez-vous qu'une opposition soi-disant démocratique refuse d'aller aux élections? Qu'est-ce qu'elle fait pour que les élections n'aient pas lieu? Elle manipule des groupes armés. Elle lève des mercenaires, aussi bien centrafricains qu'étrangers, pour que les élections n'aient pas lieu dans le pays. c'est parce qu'ils savent tout simplement qu'aller aux élections, c'est une catastrophe pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que les élections n'aient pas lieu. Et ils disent que l'élection n'est pas crédible parce que les gens ne sont pas allés aux élections.
Monsieur Yaloké, une fois de plus, je suis désolé de vous interrompre. Nous ne parlons pas. Est-ce que vous pouvez répondre? L'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu sécuritaire. L'envoi de ces 3000 casques bleus de plus.
Je vous parle de sécuritaire.
Oui, mais il a accusé le gouvernement Touadéra, dont vous êtes le porte-parole d'un certain nombre de choses.
Vous
pouvez y répondre directement, s'il vous plaît.
Je vous réponds, madame. Ce qui provoque l'insécurité dans le pays aujourd'hui, c'est la CPC, cette aile militaire qui manipule des mercenaires, aussi bien centrafricains qu'étrangers, pour déstabiliser le pays. Comment voulez-vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, vous savez que nous avons eu des attaques le mois de janvier dernier. S'il n'y avait pas les partenaires qui nous ont aidés à contenir les assaillants, franchement, les institutions démocratiques seraient par terre aujourd'hui. Disons
ce qui peut-être conforte ceux qui disent que le président Touadéra est le président de Bangui.
Le président de Bangui ou le président de tout ce que vous voulez, vous savez très bien qu'il y a une conspiration qui a lieu. Et aujourd'hui, nous avons...
Conspiration de la part de qui?
Il y a des conspirations et vous allez voir que la justice va donner la vérité. Il y a des hommes politiques centrafricains qui sont impliqués dans cette conspiration.
Merci. En quelques mots, M. Yaloké, s'il vous plaît, et on va écouter M. Montero. Je crains qu'on l'interrompe encore pour la pause. En deux mots, M. Yaloké, vous parliez de l'armée centrafricaine, les FACA qui sont désarmés face à la situation. Est-ce que vous demandez la levée l'embargo sur les armes?
Mais forcément. Il faut que l'embargo soit levé sur les armes en République centrafricaine. Les forces qui sont en face de nous, s'il n'y avait que nos FACA pour résister à ces assaillants qui sont venus envahir le pays, je ne pense pas que les FACA puissent tenir le coup sans le soutien de la MINUSCA, sans le soutien de nos partenaires qui nous ont amené des moyens militaires et des hommes pour pouvoir repousser les assaillants.
Merci beaucoup. Alors, M. Montero, 11 000 hommes plus 300, à peu près 11 300, si on en ajoute 3 000 comme vous souhaitez, ça va faire à peu près 13 300. Qu'est-ce que cela peut changer de manière concrète sur le terrain? À quel niveau se situera la différence si vous avez ces 3 000 hommes?
C'est davantage de casques bleus sur le terrain aux côtés des forces de défense et de sécurité centrafricaines pour faire face à cette menace qui est sur plus
qui n'ont pas d'armes.
C'est à vous. Il y a des forces de défense et de sécurité, les FACA et les FSI qui sont également sur le terrain et ils sont extrêmement importants également dans ce processus de sécurité. Ce n'est pas que la MINUSCA, c'est d'abord le rôle des autorités centrafricaines et nous sommes déterminés à les appuyer avec le nombre d'hommes actuels et si le Conseil de sécurité accepte de les augmenter, tant mieux, nous serons plus à même de faire face à ce nouveau défi qu'on n'avait pas prévu avant décembre 2020 lors du lancement de ces attaques coordonnées et multiples.
Merci M. Montero, on va marquer une dernière pause et je vous retrouve pour conclure ce débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'envoi éventuel de 3000 casques bleus supplémentaires en Centrafrique pourrait-il changer la donne et ramener la sécurité dans ce pays? C'est le débat de ce jour avec Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique, Mahamat Kamoun, ancien Premier ministre et président en exercice de la Côte 2020, la coalition de l'opposition, et Albert Yaloké, porte-parole de la présidence centrafricaine, à qui je donne la parole à présent. Monsieur Yaloké, les membres du Conseil de sécurité ont souligné vendredi la nécessité urgente et impérative de mettre fin à l'impunité en Centrafrique et de traduire en justice les auteurs de violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Alors, s'en est suivi le transfert par les autorités centrafricaines de Mahamat Saïd Abdelkhani, commandant présumé de l'ex-coalition Seleka à la CPI. pour son rôle dans les violences de 2013. Est-ce que c'est un avertissement aux autres chefs rebelles et peut-être aussi à François Bozizé?
C'est non seulement un avertissement, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que sur place, ici, à Bangui, il y a beaucoup d'hommes qui ont été arrêtés et qui ont été transférés à la maison d'arrêt en attendant justement de comparaître devant le juge. Et cet avertissement va aussi bien au niveau de la CPSAI, la Cour pénale spéciale, qu'au niveau de la Cour pénale internationale. Et ces hommes ont parlé, ils ont fait des aveux, ils ont donné des noms, ils ont dit plus ou moins l'ensemble des structures qui ont mis en place pour ce complot qui a failli aboutir au coup d'État qu'on sait. Alors vous comprenez que beaucoup d'hommes aujourd'hui s'inquiètent du travail qui est fait au niveau de la justice et des forces de sécurité pour traduire en justice tous ceux qui ont ourdi ce complot pour pouvoir...
Dans d'autres chefs rebelles présumés pourraient être transférés à l'AE d'ici quelques mois, quelques semaines.
Le travail continue de ratissage et tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce complot seront traduits en justice, seront arrêtés et en fonction du niveau de leur complicité ou du niveau de leur implication, il y a la Cour pénale spéciale, il y a la Cour pénale internationale et je pense que les Centrafricains veulent aujourd'hui qu'il y ait une impunité zéro par rapport à tous ceux qui sont concernés.
Monsieur Kamoun, une réaction à cette riposte judiciaire de Bangui?
Comment
réagissez-vous à l'envoi à la CPI de cet ancien chef rebelle, Séléka, Saïd Abdelkhani?
Madame, vous savez que je préfère me réserver sur cette question dans la mesure où je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a trop de publicité, il y a trop de discours sur la lutte contre l'impunité. En tant que centrafricain et leader politique, moi j'observe, je vois les résultats, j'attends les résultats.
D'accord.
Les résultats, donc je ne peux pas vous dire...
Si vous ne souhaitez pas vous prononcer sur le transfert de l'ex-rebelle, peut-être... Je souhaite donc que vous commentiez.
On en parle de tous côtés, nous ne voyons pas les choses venir, donc je ne vais pas m'aventurer.
D'accord. Et que dites-vous de cette accusation de l'implication d'étrangers parmi les rebelles? On parlait de Tchadiens et on a observé que ces derniers jours, le gouvernement de Bangui semble... plutôt privilégier l'apaisement. Il y a le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Laurent Gonbaba, qui s'est rendu à N'Djamena. Il a été reçu par Idriss Déby. Et pour lui, le Tchad n'est pas impliqué dans l'attaque de Bangui. Comment appréciez-vous ce changement de ton ou peut-être de stratégie de Bangui?
Mais vous savez que dans notre pays, on a pris de mauvaises habitudes. À chaque fois qu'il y a un problème ici, on cherche des boucs émissaires à pointer un doigt accusateur sur les autres. C'est comme si nous ne sommes pas responsables de quoi que ce soit. Moi, je ne peux que m'indigner face à des accusations gratuites.
Des boucs émissaires dont la France aussi, certains parlent de la France qui serait le parrain de François Bozizé.
C'est l'extérieur, c'est
soutenu par le Tchad.
C'est la Côte de 2020, et comme à leur habitude. Vous voyez donc, il a amené une lettre, c'est suite à une déclaration d'un ministre de la République. Quand j'écoutais le président de l'Assemblée nationale dire que c'est de la manipulation, de qui? Alors donc, moi je pense que il faut soigner les relations diplomatiques avec toutes les nations frères, amis de la République centrafricaine. Et lorsqu'il se pose un problème, soyons-nous, ils ont de réfléchir. Les gens appellent aux uns et aux autres pour trouver une solution à la centrafricaine plutôt que de continuer d'accuser les uns les autres.
Merci beaucoup.
Donc, si vous me permettez, sur la question de l'envoi des 3000 hommes, moi je ne pense pas, je n'avais pas donné mon point de vue, je ne pense pas. 3000, 6000, 10000, c'est pas ça qui va régler le problème. Aujourd'hui, nous assistons à une militarisation de la République centrafricaine. Comme vous le savez, du côté du pouvoir, il y a les mauvaises langues disent que c'est les mercenaires russes, rwandais et autres, et leurs alliés, et quel autre pays. Et on demande encore des troupes supplémentaires, mais on ne parle rien, on ne dit rien sur les forces armées centrafricaines.
qui pourtant... Donc, vous, si vous appelez à la levée de l'embargo?
Mais la levée de l'embargo... Ben, écoutez, nos forces armées centrafricaines ont subi d'une formation de la part de l'Union européenne, de tous les pays amis. Ils ont bénéficié de matériel roulant en armes, etc. Quelle est la présence de la Russie? Quel est le but de la présence de la Russie? Ce n'est pas pour amener les armes à la République centrafricaine.
Mais merci.
Dans tout ça, là, on ne parle pas de nos facas. Moi, je merci pense beaucoup. Qu'il y a un problème de gouvernance dans le milieu militaire. On ne donne pas les moyens qu'il faut à nos jeunes soldats, on vous en offre.
Merci beaucoup, Monsieur Kamoun. On va laisser 30 secondes rapidement à Monsieur Montero et ensuite à Monsieur Ayoloke. En 30 secondes, Monsieur Montero, alors 2/3 du territoire centrafricain contrôlé par des groupes armés, 3000 hommes supplémentaires, 3000 casques bleus supplémentaires, qu'est-ce que cela pourrait changer?
Ça peut répondre à la menace causée par ces groupes armés, mais comme l'a dit...
Mais pas à court terme, à récupérer Kamoun. Le territoire perdu sous contrôle des groupes armés.
À prévenir les violences contre les populations. Mais comme l'a dit M. Kamoun, la solution, c'est le dialogue et le représentant spécialement Kerunjai l'a rappelé devant le Conseil de sécurité. Le dialogue, tout en tenant compte de la lutte contre l'impunité.
Lui-même sous les feux de critique de l'opposition, qui a d'ailleurs appelé à une enquête sur les actions de M. Mankor Ndiaye. Voilà, on ne sait pas si cela va aboutir, mais il fallait le mentionner. En conclusion, M. Ayoloke, en quelques secondes, quels sont vos espoirs que le Conseil de sécurité accède à la demande de la MINUSCA? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce que vous espérez de cet éventuel renfort?
Voilà. Je pense que le Conseil de sécurité, le comité de sanction va accéder à cette demande. Et je pense que la République centrafricaine l'a demandé depuis. Il nous faut des moyens parce que en face des FACA, en face de nos forces armées, c'est des hommes qui sont lourdement équipés et nous n'avons pas les moyens de faire face. Il a fallu, comme je le disais, l'aide des pays partenaires et amis, l'aide de la MINUSCA pour pouvoir faire face. Et il faut que cet embargo soit levé.
Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la FACA? On a vu qu'il y a eu une offensive de la FACA avec la MINUSCA qui a permis de neutraliser, d'après vous, au gouvernement, 44 ou une quarantaine de rebelles.
Oui, et nous voyons une solution aérienne à la riposte militaire qui se pose à nous. Il faut une réponse aérienne. Tant que la MINUSCA, tant que nos forces de défense ne sont pas équipées à ce niveau pour faire face à cette menace d'une manière aérienne, le nombre d'hommes qu'on pourrait envoyer ne réussirait pas à contenir cette attaque.
Merci beaucoup, Albert Ayoloke, porte-parole de la présidence centrafricaine. Merci à vous, Mahamat Kamoun, ancien Premier ministre et président en exercice de la COD 2020 de l'opposition centrafricaine, et Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur Africa Radio.